découvrir par nous-mêmes et il nous faut l'accepter. Bien. Nous avons vu également donc que cette nouvelle alliance, elle est mieux que la précédente, parce que la précédente était une alliance bilatérale, c'est-à-dire que Dieu faisait sa part, mais nous devions faire la nôtre pour pouvoir mériter les bonnes promesses qu'il avait pour nous. Mais la nouvelle alliance est meilleure parce qu'elle est fondée non pas sur nos performances, mais sur ce que Jésus a fait. Et nous sommes au bénéfice de ce que ce seul Jésus a fait. Ensuite, il y a des œuvres. Mais les œuvres sont une conséquence de notre salut, elles ne sont pas une cause de notre salut. Ce n'est pas parce que je fais certaines choses bien que je mérite mon salut, c'est parce que Jésus est venu et qu'il m'a tout donné que ensuite j'accomplis certaines œuvres pour lui. Amen. Et donc, on va regarder dans Galates au chapitre 4, pour reprendre un petit peu le verset clé de cette étude. Galates au chapitre 4, il nous est dit, alors on va avoir plusieurs versets ensemble, si vous n'avez pas de Bible, ça va s'afficher sur l'écran, vous pouvez regarder sur celle de votre voisin. Galates au chapitre 4, il nous est dit qu'au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Donc Christ a pris sur lui la malédiction qui était, je dirais, qui pendait au-dessus de la tête des êtres humains et qui tombait sur eux lorsqu'ils désobéissaient. C'est ainsi, verset 14, quand Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, touche aussi... Alors, ce n'est pas le bon verset, ce n'est pas grave. C'est parce que j'ai interverti. C'est ainsi quand Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, vous réécouterez le message de la semaine dernière. On avait fait un parallèle, une étude entre l'ancienne alliance, celle qui était passée avec les juifs, et la nouvelle alliance. Et nous voyons qu'il n'y a absolument rien à voir entre les deux. La nouvelle est meilleure, c'est celle que Jésus a scellée par son propre sacrifice et nous sommes au bénéfice de cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance est d'autant meilleure que nous sommes, nous disent les Écritures, fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Pas esclaves, pas ouvriers. Bien sûr que ça, ce sont des aspects de notre relation avec lui. Mais Dieu n'est pas mon patron. Dieu n'est pas simplement mon créateur, mon architecte ou que sais-je encore, il est mon père. Il est le tien si tu entres dans cette alliance. Comment est-ce qu'on entre dans cette alliance? En faisant ce que vous avez fait ce matin, en invitant Jésus à venir dans sa vie, tout simplement. Tout simplement, c'est la seule chose que l'on est à faire. Et il nous est dit donc en Jésus-Christ, la bénédiction, et c'est le mot que nous avions vu la semaine dernière, elle va de pair cette bénédiction avec l'alliance. Et on va étudier un petit peu plus aujourd'hui la bénédiction. La bénédiction. Alors, il y a des débats aujourd'hui dans certains cercles chrétiens. Le mot prospérité fait bondir certains. Tant pis pour eux. Mais en réalité, quand on regarde les Écritures, la prospérité n'est que l'un des bénéfices de l'alliance et de la bénédiction. Nous avons vu notamment que cette nouvelle alliance nous promettait la paix. Et lorsqu'on étudie l'étymologie du mot paix, ça ne veut pas simplement dire ce que dit le Larousse, mais ça veut dire le mot shalom en hébreu. Et le mot shalom en hébreu, vous vous souvenez, ça veut dire la cessation des hostilités, la plénitude, la tranquillité, le bien-être, la prospérité. Toutes ces choses-là nous sont maintenant données par Dieu. Pour ceux qui les veulent, c'est à leur disposition. Pourquoi ? Grâce à ce que Jésus a accompli pour nous, grâce à cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés avec lui. Galates. Au chapitre 4, verset 7, je vous le lis simplement. Donc il nous est dit, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Bien. On voit qu'il est question ici de la bénédiction d'Abraham. Il nous est dit, on l'a vu, grâce à ce que Jésus a fait, la bénédiction d'Abraham n'est plus pour les juifs seulement, elle est aussi pour les non-juifs. Question, ça vaut peut-être le coup de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette bénédiction d'Abraham. Moi, je ne veux pas louper quoi que ce soit qui est à ma disposition. Je ne veux pas galérer sur cette terre et m'arriver au ciel, et que Dieu me dise, ben c'est dommage, parce que si tu avais un peu étudié, tu te serais rendu compte qu'il y avait une toute autre façon de vivre. Genèse, au chapitre 12, il nous est dit, l'Éternel dit à Abraham, verset 1, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je fais une petite parenthèse, ce n'est pas une redondance ici. Il est en train d'inviter Abraham à quitter trois choses. Il est en train de l'inviter à quitter son pays. Bon. Il est en train de l'inviter à quitter sa patrie. Ce qui n'est pas la même chose. La patrie dont il est question ici, étymologiquement, c'est son lieu de naissance. Peut-être est-ce que vous vous sentez plus niçois que français. Vous avez besoin dans ce cas-là de quitter votre patrie et pas seulement votre pays. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quand il lui est dit « quitte », étymologiquement en hébreu, c'est dit « va pour toi loin de ta famille, ta patrie, ton pays ». C'est pour toi. Et ensuite, il dit « quitte ta famille ». Et ça, pour moi, il n'a pas dit « quitte ta femme », parce qu'on voit qu'Abraham est parti avec. Mais celui dont il devait, avec qui il devait couper le cordon, c'était son père, en l'occurrence, ici. Pourquoi ? Parce que pour moi, « quitte ta famille », ça veut dire « va falloir que tu coupes le lien avec la culture que tu as eue ». Si elle t'empêche de rentrer dans ce que Dieu a pour toi, tu as besoin de quitter ta famille dans ta tête. Je ferme la parenthèse. Il lui est dit, et c'est intéressant parce que Dieu a choisi Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. Dieu a souverainement choisi quelqu'un pour lui dire « voilà ce que je vais faire pour toi ». Et Abraham n'avait rien fait d'extraordinaire jusqu'ici. Il n'était pas d'un peuple particulier. Il n'était pas d'un pays particulier. Il vivait dans une nation païenne qui adorait les idoles. Il lui dit « je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je fais une autre parenthèse que j'ai remarquée ce matin, ou hier, je ne sais plus, ou entre les deux. Il est dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Pour ceux d'entre nous qui faisons œuvre de fausse modestie, c'est du style, Seigneur, moi je veux juste faire ma petite part dans mon coin, mais tu sais, je demande rien. Ben, t'as tort. Parce qu'ici, il nous est dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et on va le voir ensemble. Ce que Dieu veut faire dans nos vies n'est pas censé rester caché. Ce que Dieu veut faire dans nos vies doit être suffisamment spectaculaire pour notre entourage pour que, en faisant grandir, je dirais, notre nom. Ça veut dire quoi, faire grandir un nom ? Ben, ça veut dire qu'à un moment donné, ton nom va circuler. Et il va circuler de telle sorte que c'est du style, il faut que tu ailles voir par toi-même, parce que c'est juste extraordinaire. Et cela, il nous est dit, ça ouvre la porte pour être une source de bénédiction pour les autres. Donc tu comprends que nous parlons de bénédiction, mais ça ne se limite pas à nous. Dès l'origine, quand Dieu a béni Abraham, il lui a pas dit « je te bénirai ». Il a dit « je te bénirai et je ferai de toi une grande nation et tu seras une source, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction ». Donc le problème, c'est la conception que les gens ont du mot prospérité ou bénédiction ou alliance. Et ils disent « ah mais tout ce que ces gens-là veulent, c'est notre argent, finalement ils ne prônent que la satisfaction individuelle ». Pas du tout, pas la satisfaction individuelle. Oui, bien sûr, Dieu pourvoit mes besoins, c'est certain. Et la Bible nous dit même qu'il y pourvoit avec abondance, avec gloire, au-delà de ce que je peux penser, rêver ou imaginer. Mais, d'après ne serait-ce que ce premier verset de la bénédiction d'Abraham, c'est aussi pour les autres. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ensuite, verset 28, il est dit, donc toujours remontez au chapitre 1 de la Genèse, au verset 28. Genèse 1, 28. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction dont il s'agit ? Genèse 1, 28. On voit que quand Dieu a créé l'homme, il nous est dit, donc verset 27, il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, puis verset 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Et on sait qu'il n'est pas question ici de maltraitance, ni vis-à-vis de la terre, ni vis-à-vis des animaux. Mais qu'il est question de multiplication, c'est ce que l'on peut voir, du fait de devenir nombreux, du fait de remplir la terre et du fait de pouvoir soumettre la terre. On voit également qu'il était question de pouvoir bénéficier de ce que la terre avait pour nous. Dieu les bénit. Et le problème, c'est qu'on a réduit le mot bénédiction, le champ de la bénédiction. C'est devenu presque une formule de politesse à la fin des mails. Bon, bah, bénédiction, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez bénis. Et celui qui me dit soyez bénis, il roule en deux chevaux toutes pourries. Alors, soit c'est un choix de sa part, ça peut être vintage. Soit il ne comprend pas ce qu'il est en train de me dire. Soyez béni, mon couple bat de l'aile. Soyez béni, tout le monde est malade. Soyez béni, j'ai pas un sou à la banque. Et je me dis, ok, explique-moi le mot là. Tu entends quoi par bénédiction ? Dieu a béni Adam et Ève. La bénédiction, c'est la puissance de prospérer, c'est la puissance de multiplier. Et pas que numériquement au niveau de la famille, bien que ça soit une source de bénédiction aussi. La puissance de prospérer, la puissance de multiplier dans mes pensées, dans mes relations, dans ma santé, dans mes entreprises, dans mes projets, dans ce que je fais pour les autres, dans le cercle de mon univers qui s'agrandit. Dieu les bénit. Et ça remonte à Adam et Ève, pas à Kenneth et Gloria Copeland, pour ceux qui connaissent. Ça remonte à Adam et Ève. Ensuite, Genèse chapitre 9, verset 1. C'est assez intéressant parce qu'après le déluge, il n'y a donc plus que Noé et sa famille qui sortent de l'arche, qui marchent à la surface de la terre. Et il est dit au verset 1, chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Dieu bénit Noé et ses fils. Nous sommes avant Abraham, nous sommes avant la loi, nous sommes avant la nouvelle alliance. Il y avait déjà cette volonté de Dieu de bénir l'être humain qu'il a créé. Vous comprenez ? Ensuite, donc de quoi est-ce qu'on parle ? On ne parle pas de la théologie de la prospérité. On parle de la bénédiction. La bénédiction de Dieu, elle est unique. Elle est globale, elle est suffisante, largement suffisante, et elle est unique. Soit tu comprends la bénédiction, soit tu ne la comprends pas. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour nous faire rentrer de nouveau dans cette bénédiction. Vous comprenez ? Bien. Genèse chapitre 15 à présent. Au verset 1, de nouveau Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, j'en ai assez de prendre les Écritures comme une métaphore. On a considéré les Écritures comme une métaphore et on a eu des résultats métaphoriques. Ici, quand Dieu dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Et que dans Galates, il m'est dit que grâce à Jésus, je peux bénéficier de la même bénédiction qu'Abraham, alors ma récompense sera très grande. Je suis preneur. Verset 17. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Intègre veut dire entier. J'établirai mon alliance entre moi et toi, pas l'inverse, c'est Dieu d'abord. Qui est à l'initiative, entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. Je suis preneur. De quoi on parle ? De la bénédiction. Qu'est-ce qu'on fait ? On lit les Écritures ensemble. C'est tout ce qu'on fait. On lit les Écritures ensemble et on voit ce qui est écrit à l'intérieur. D'accord ? Bien. Donc vous vous souvenez, et c'est important, c'est vraiment le verset clé, c'est Galates 3,14, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs en Christ. Donc je vous encourage à étudier la vie d'Abraham, regardez comment cet homme a été béni, regardez ce qui est à sa disposition, regardez les promesses que Dieu lui a faites. On a vu la semaine dernière que les promesses faites à Abraham ne dépendent pas de la loi qui n'est intervenue que 400 et quelques années plus tard. Cette même loi qui, elle, disait par contre, si tu obéis, tu seras béni, si tu désobéis, tu seras maudit. Mais les promesses que Dieu a faites à Abraham, avant la loi, eh bien, aujourd'hui, nous sommes de nouveau greffés à cette chose-là. Hébreux chapitre 9, verset 15. On regarde plusieurs écritures ensemble. Hébreux chapitre 9, verset 15. Il nous est dit au sujet de Jésus, « Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. » C'est-à-dire que tous ceux qui ont vécu avant la croix et qui ont forcément loupé le coche, puisque tous ont péché, nous dit Galates, ils sont privés de la gloire de Dieu, et que leur transgression les prive de la gloire de Dieu, eh bien ici, il nous est dit, la mort de Jésus est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous cette première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent quoi ? L'héritage éternel promis, c'est la suite du verset. Afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Là encore, dans le, on pourrait dire, le champ lexical de la bénédiction, il y a le mot héritage. Et on sait qu'un héritage nous parvient lorsqu'il y a décès du testateur, c'est ce qui nous est dit. Eh bien, Jésus est mort pour que nous soyons au bénéfice de cet héritage. Donc prenez-le comme vous voulez. Si le mot bénédiction vous parle plus, tant mieux. Si c'est le mot alliance, tant mieux. Si c'est le mot héritage, tant mieux. Si c'est le mot grâce, on a vu également la semaine dernière dans Hébreux, où il, dans Galates, non, dans Hébreux, où il nous est dit que nous sommes au bénéfice de sa grâce, que Abraham a été au bénéfice de la grâce de Dieu. Donc dans la grâce de Dieu, cette faveur imméritée qu'est la grâce, il y a le fait que tous nos besoins sont pourvus. Pareil, on chante la grâce, ta grâce, ta grâce. Comme si c'était oh, uniquement tu m'as pardonné de mes péchés. Oui, oui, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans la grâce, il y a tout ce dont tu as besoin. Donc quand tu vas étudier la grâce, le fait que Dieu est sur le trône de grâce, le fait qu'on puisse s'approcher de cette grâce, qu'elle a été déversée sur nous avec abondance, etc., comprends que ça n'est pas simplement le pardon de tes péchés. Je suis en train d'essayer de combattre par les Écritures l'idée que l'homme doit se débrouiller tout seul sur cette terre. Ça n'a jamais été le plan de Dieu, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais malheureusement, ça sera notre vie si nous nous en contentons. Ensuite, Philippiens chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Verset 19, il est dit... Vous connaissez ce verset, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » On pourrait presque s'arrêter là. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Quand ? Au ciel ? Au ciel, j'ai plus de besoins. Ça ne peut pas être, ça peut pas être du ciel dont il est question ici. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Financier ? Oui, bien sûr. Mais émotionnel ? Aussi. Besoin de direction quand on ne sait pas où aller dans la vie ? Aussi. Besoin d'amis quand on en manque ? Aussi. Besoin de paix quand on est dans le tourment ? Aussi. Besoin d'être délivré de certaines choses ? Aussi. Quel que soit ton besoin, c'est écrit ici, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et il ne le fera pas chichement, il le fera selon sa richesse. C'est-à-dire que, pas selon les moyens limités que nous avons sur cette terre, selon sa richesse. Et ça ne s'arrête pas là. Il le fera avec gloire. Dieu va se glorifier. Dieu ne fait pas les choses en secret. Pourquoi ? Parce que Dieu aime que la caméra soit sur lui. Tu dis c'est de l'orgueil. Non, dans son cas, c'est du réalisme. C'est pas de l'orgueil quand on n'a pas une trop haute opinion de soi-même. Mais comment pourrait-il avoir une trop haute opinion de lui-même ? Il aime se glorifier. Il aime se glorifier, mais il ne le fait pas à coup de malédiction. Il le fait, on l'a vu dans Éphésiens la semaine dernière, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Il aime se glorifier de telle sorte que nous sautions de joie. Ça peut paraître abstrait quand on est un peu dans le tourment, mais quand, je vais vous dire, vous voyez la délivrance de votre Dieu, comme on a pu la voir notamment au niveau financier, il n'y a pas si longtemps ma femme et moi, je sautais de joie dans le salon. Littéralement. Là, tu peux être en peignoir, tu peux être devant la fenêtre de chez toi. Ça ne fait aucune différence. Je vais te dire, ou quand tu as vraiment mal quelque part et que la douleur disparaît parce que Dieu vient de te guérir, je vais te dire, à ce moment-là, ce que les gens pensent autour de toi, tu sautes de joie. Avec gloire en Jésus-Christ. Ok ? 3 Jean chapitre 2. On connaît ce verset. Troisième épître de Jean, donc pas l'évangile, hein, les épîtres. 3 Jean, pas chapitre, pardon, verset 2. Bien-aimé, ce qui est déjà un bon début, je suis bien aimé. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Ou dans d'autres versets, dans d'autres versions, pardon, je suis dans 3 Jean 2. Dans d'autres versions, c'est comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout ici. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc tous égards, c'est tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Voilà, la volonté de Dieu, elle est là. Et comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire, l'âme, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. L'âme, c'est tes pensées, tes émotions, ta mémoire, tes souvenirs, ta volonté, ton intelligence. Ces choses-là aussi doivent prospérer. En vérité, elles doivent même prospérer en premier. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, tant que tu ne changes pas ta façon de penser. Et c'est pas, ça ne sert à rien de se mettre la pression, parce que tu peux faire tous les efforts du monde, ce n'est pas comme ça que tu vas changer ta façon de penser. Ta façon de penser, elle change quand tu passes du temps à méditer les Écritures. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu vas finir par voir les choses comme Dieu les voit. Alors parfois, il est nécessaire de faire un pas de la foi. Parfois, il est nécessaire, si tu te rends compte que, eh bien, je ne sais pas, tu es quelqu'un qui a tendance à tout garder, parce qu'on ne sait jamais. C'est quoi? Ben, il y a des fois où c'est de la sagesse, et il y a des fois où c'est de la peur de manquer. Et le Saint-Esprit va te montrer quand il faut garder et quand il faut balancer. Mais peut-être que tu as été éduqué comme « faut tout garder, la moindre vis, faut la garder ». Bon, si c'est comme ça que tu as été programmé, formaté, tu as besoin de changer ta façon de penser. Peut-être que le pasteur, à un moment donné, va donner une parole, bing, ça va te parler. Peut-être que tu vas lire un verset dans les Écritures, ça va te parler. Peut-être que tu es sous ta douche et le Saint-Esprit va te parler. Pourquoi tu gardes tous ces trucs? D'accord? Mais le truc, c'est que ça va à l'encontre de ton cerveau. Ça va même à l'encontre de tes émotions. D'un coup, tu commences à paniquer. Non mais attends, si je jette là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais devoir... Et tu vois que ton âme a besoin de prospérer. D'accord? Et ensuite, tu as fait de la place dans tes placards et le Seigneur peut les remplir à nouveau. Expérience vécue. Expérience vécue. Vous comprenez? Donc, parfois il est nécessaire de faire un pas de la foi. Parfois il est nécessaire d'aller se payer un café à un endroit où on n'aurait jamais mis les pieds auparavant. Sans compter qu'en réalité, ce n'est pas si cher que ça. Quand tu t'aperçois que ce n'est pas si cher que ça, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que tu avais peur, tu étais persuadé que ça allait te coûter 50 euros le café, alors que pas du tout. Et peut-être que des fois, ça vaut le coup de mettre 50 euros dans un café, ou d'inviter quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un subtil mélange entre se nourrir des Écritures, entendre la voix du Saint-Esprit et faire des pas d'obéissance. Voilà. Et on prospère comme cela au fur et à mesure. Parce que ça n'est pas parce que Dieu nous a bénis que ça va nous tomber dessus du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'à l'état actuel, on ne le veut pas. Tu dis, oh mais si, bien sûr que je le veux. Non, tu ne le veux pas. Sur certains trucs, tu ne le veux pas, parce que ça va impliquer des choses que tu ne veux peut-être pas. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Il y a peut-être 2-3 ans de cela, c'était les soldes et j'avais besoin d'un... Il y avait un vêtement que je voulais. Je ne trouvais pas mon bonheur dans mes magasins habituels, qui ne sont pas les puces, mais qui ne sont pas non plus le haut de gamme. Et... Hein? Je ne m'habille pas aux puces. Mais il n'y a pas forcément des puces dans les puces. Hein. Enfin, bon, peu importe. Et je travaille à côté d'un magasin Hugo Boss. Donc je passe dans la rue, et puis j'étais habillé en plus, alors genre short, t-shirt, fatigué le t-shirt, vous voyez. Et Seigneur m'a dit, rentre un peu dans le magasin là. Ben j'ai pas pu. J'ai pas pu. Pourquoi j'ai pas pu? J'ai pas pu pour deux raisons. La première, c'est que j'avais peur du regard des gens que j'allais trouver à l'intérieur. La deuxième, c'est que je me suis dit, ça ne sert à rien puisque je n'ai pas les moyens. Et même à supposer que je les ai, je commençais déjà à cogiter un petit peu sur le fait, sur ce qu'allaient dire peut-être les gens autour de moi s'ils se rendaient compte que j'avais des costumes de ce prix-là. Je ne sais plus si c'est, il a fallu que je fasse demi-tour parce que ça ne me lâchait pas, ou si c'est le lendemain que je suis rentré dans le magasin, mais j'ai fini par rentrer. Avec crainte et tremblement, mais j'ai fini par rentrer. Et je ne me suis pas planté, puisque la clientèle que j'ai trouvée à l'intérieur est exactement celle que je m'attendais à trouver, c'est-à-dire des hommes d'affaires chinois ou du Moyen-Orient, avec leur téléphone à l'oreille, pendant que quelqu'un d'autre était en train de les habiller. En vérité, je suis rentré dans le magasin, et puis il n'y avait personne en bas, sauf une vendeuse. J'ai dit bonjour, bonjour, bonjour. Non, je regarde, je regarde. Et donc je regarde, et en plus je vois, mais alors, pile le genre de costard que j'aime sur le mannequin, en plein en face quand je rentrais dans le magasin. Oh, je fais, c'est beau. Hein. Ça vous plaît? Oui, oui. Ben, faut monter au premier, hein, parce que le plus beau est en haut. Ah, il y a un premier. Bon, et Seigneur, j'ai fait 30, je fais 31. Et c'est en haut que j'ai vu donc les fameuses hommes d'affaires, etc. Bref, je vous la fais courte. J'ai trouvé l'article qui me convenait. Et j'ai pas eu le courage de l'acheter, donc je suis sorti de là sans le trench, puisque c'était un trench en l'occurrence que je voulais prendre. Voilà. Et j'ai été l'acheter chez Mango. Bon. Ça vaut ce que ça vaut, après une saison, c'est pas la qualité Hugo Boss, c'est certain, c'est certain. Il y a des choses très bien chez Mango, mais... Ouais. Tout ça pour vous dire quoi? On a besoin de prospérer dans notre âme. Un autre exemple, rapidement, un jour quelqu'un me dit « Non, je vais envie de t'acheter un beau costume ». Et j'y suis allé, j'ai fini par avoir le costume, on me l'a offert, etc. J'ai transpiré. Voilà, j'ai transpiré dans le magasin. J'étais carrément pas à l'aise, quoi. Et puis il y avait le costume, et puis il y avait la chemise, et puis. Et j'étais pas à l'aise. Et le truc, c'est que. Pourquoi? Réfléchissons deux secondes. Pourquoi? Ça peut être un costume, ça peut être autre chose. Hein. Ou ça peut être la guérison. Ou ça peut être un certain conjoint. Ou ça peut être un type d'ami. Ou ça peut être le fait d'aller habiter dans certains quartiers. Pourquoi? Pourquoi ça serait pour les autres et pas pour moi? Dans le sens, un être humain en valant un autre, la seule chose qui fait la différence dans ce cas-là, c'est ce qu'il y a sur le compte bancaire, n'est-ce pas? J'ai les moyens de me le payer ou j'ai pas les moyens de me le payer? Bien, si quelqu'un me disait, ben, je te l'offre, est-ce que je serais capable de le recevoir? Est-ce que nous nous sommes déjà rendus compte que quand quelqu'un veut nous faire un cadeau, c'est du style, ah non, 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 ça va, j'ai tout ce qu'il faut, merci, j'ai tout ce qu'il faut, je t'assure. Non mais je t'assure, je veux te payer. Mais ça peut être quelque chose de... un café. Non, 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 ça va. Non, c'est pour moi. Alors, on est très prompt à inviter les autres, on n'arrive absolument pas à recevoir. Pourquoi? Si tu n'es pas capable de recevoir un café de quelqu'un, comment veux-tu recevoir l'ampleur de la bénédiction que Dieu a pour toi? Dis-moi un peu. Sans compter qu'il y a un autre truc. C'est que Dieu est capable de faire pousser dans ton jardin un arbre avec des billets de banque, mais 99 fois sur 100, ça va passer par quelqu'un d'autre. Parce que Dieu utilise les gens. Ce qui veut dire que Dieu va donner instruction à quelqu'un de venir te bénir. Ah Seigneur, mais moi je suis ouvert. Hein. Ah, une nouvelle voiture, hein. Alléluia, une nouvelle voiture, alléluia. Et quand quelqu'un veut te payer un livre à la librairie, tu cherches quelqu'un d'autre dans la salle, lui il a plus besoin que moi là-bas, va lui donner. Ouais, mais tu viens de louper une occasion de faire prospérer ton âme. Vous comprenez? Bien, on continue d'avancer. Deutéronome chapitre 28. On parle de quoi? On parle de la bénédiction, pas une bénédiction, pas la théologie de la prospérité, la bénédiction. Deutéronome chapitre 28, regardons ensemble rapidement. Et quand j'ai étudié, j'ai été tellement béni parce que j'ai toujours pensé que ce chapitre, qui a disparu de mon livre, où est-il? D'une certaine façon, ne s'adressait pas à moi. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'Ancien Testament, parce qu'il fait partie de la loi qui a été donnée aux Juifs. Et que donc, a priori, je ne suis pas concerné. Jusqu'à ce que je comprenne que, ici, il est donné comme la loi. Mais en réalité, ce n'est ni plus ni moins qu'une description de la bénédiction. Que sous l'ancienne alliance, elle ait été conditionnelle, cette bénédiction. Tu fais et tu auras droit à ça, c'est un compte. Mais la bénédiction reste la bénédiction. De quoi s'agit-il ? Chapitre 28, verset 1, verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. » Bon, pour moi, Valbonne, c'est déjà plus la ville. Hein. Donc, pensez pas forcément, oui, mais moi, j'habite pas dans la Creuse. Non, ça peut être aussi, tu seras béni dans la verdure. Tes enfants... Le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Même chose, tu peux dire, on peut avancer un peu Pierre, je suis au verset 4. Et je vais avancer comme ça au fur et à mesure. Tu dis, mais pareil, je ne suis pas agriculteur moi, je plante rien. Bon, mets ce que tu veux là-dedans. Mes comptes bancaires sont bénis. Mon bulletin de salaire est béni. Mes enfants sont bénis. Bon, là, en l'occurrence, c'est écrit noir sur blanc. D'accord ? Mes investissements sont bénis. Etc. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tes placards seront bénis. Ton frigo est béni. Tout. Ton congélateur est béni. Tes placards à vêtements sont bénis. Placards à chaussures sont bénis. Prenez ce que vous voulez, hein. Tu seras béni à ton arrivée et béni à ton départ. C'est intéressant parce que j'ai toujours utilisé ce verset quand je prenais l'avion. Sauf que c'est l'inverse. Il n'est pas dit tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Il est dit tu seras béni à ton arrivée. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, tu es béni. Quand tu arrives sur la terre, tu es béni. C'est ce que je prie sur mes enfants. Tu es béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu arrives quelque part, tu es béni. Souvenez-vous que Dieu a promis à Abraham, on va le voir d'ailleurs, de lui donner le terrain. Pas de lui vendre. Mais il faut renouveler ses pensées pour accepter ça. Est-ce que si quelqu'un arrivait avec la clé d'une villa, je serais capable de l'accepter ? Oui, amen. Je prends. Vous savez à quoi je penserais en tout premier lieu ? C'est une donation à un autre, à un membre, à quelqu'un qui n'est pas un membre de ma famille, c'est donc taxable à 66%, ce qui veut dire que sur une maison d'à peu près 400 000 euros, ça représente à peu près 260 000 euros de taxes, mais comment vas-tu les payer ? Pas moi, lui ! Non mais je paye les taxes. Non seulement il me donne la maison, mais il paye en plus 260 000 euros de taxes. Je ne peux pas accepter, c'est trop. Bien, alors je lutte, je me plonge dans les Écritures et je dis j'accepte au nom de Jésus. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Tu rentres dans une entreprise, tu es béni, tu sors de l'entreprise, tu es béni. Si tu fais les choses comme Dieu te dit de les faire, tu es béni. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Pas si il y a des ennemis qui se dressent contre toi, contre les ennemis qui se dresseront contre toi. C'est comme ça. On vit sur terre. Qu'est-ce qu'on fait ? On lit les Écritures, on s'y attarde et on essaie de comprendre ce qui nous est dit. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils arrivent comme un raz-de-marée, là. Voilà. Et ils s'enfuiront comme des rats de marée par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. C'est quoi un béni ? Un ennemi. Un ennemi, bon, bah, ça peut être quelqu'un qui te fait un procès, mais ça peut être un voisin qui te casse les pieds, ça peut être un dégât des eaux, ça peut être une maladie, ça peut être un esprit de pauvreté, ça peut être ce que tu veux. Des tuiles à répétition sur la voiture, ça peut être... L'Éternel, regardez comme c'est intéressant, verset 8, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça c'est quelque chose, je le visualise, c'est du style. Sur lui. Bénédiction ? Sur lui. Vas-y, je t'ai ordonné, tu y vas. Je veux pas bloquer ça. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Mais si tu n'as pas un esprit d'entreprise, pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore prospéré dans ton âme à ce sujet. Ah oui, mais j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, ah mais je n'ai pas le bon milieu, ah mais j'ai pas les diplômes, j'ai pas le... Tu n'as pas un esprit d'entreprise, tu ne te lances pas. Une entreprise, ça ne veut pas forcément dire monter une société. Une entreprise, ça peut être se lancer dans un projet, quel qu'il soit. Mais ça peut être aussi monter une société, ou démarrer dans une activité professionnelle, ou diversifier tes activités professionnelles. D'accord ? L'Éternel ordonnera la bénédiction. On parle de quoi ? On parle de ce que c'est que la bénédiction. Voilà des exemples. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est ce qui est écrit. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel son Dieu, que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. Et c'est vrai. C'est vrai que les gens qui ont beaucoup d'argent inspirent une forme de crainte, c'est curieux d'ailleurs, mais une forme de respect. Pas forcément qu'ils ont peur du style « t'as plus d'amis parce que tu files déjà la trouille à tout le monde et tu te retrouves tout seul, voilà, riche mais tout seul. » Non, non, non. Ça veut dire, il y a une forme de, ouais, de crainte, de respect vis-à-vis des gens qui sont bénis. L'Éternel te comblera de bien. Wow. Ça continue. Hein. En multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux, le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Est-ce que c'est mal de faire un crédit? Non, pas forcément. Mais ici, on a un objectif. On a une image de la bénédiction. Tu es tellement béni que tu n'as plus besoin d'emprunter. Et tu peux prêter. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ça veut dire qu'il y a des fois, si tu veux marcher dans la foi par rapport à cette bénédiction, il y a des fois où tu vas devoir refuser certaines offres. C'est trop bas. Si je suis en haut et jamais en bas, alors il y a des choses que je ne prends pas. C'est simple, hein. Si je dois choisir entre deux appartements, ou si j'ai un appartement qui vient, et ouais, ça le ferait, mais c'est... Non. Si je n'ai pas à cœur que c'est à hauteur de la bénédiction que Dieu m'a donnée, je ne prends pas. Ensuite, il est dit, lorsque tu obéiras, etc., ça c'est par rapport à la loi. Entendu. Ça va? Vous suivez toujours? Bien. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. On revient à cette nouvelle alliance. Vous avez compris que dans ces deux prédications, je saute de l'ancienne à la nouvelle et de la nouvelle à l'ancienne. La nouvelle, c'est voilà tout ce que Jésus a fait, tu es béni. Ok, c'est quoi la bénédiction? Hop là, je repasse à l'ancienne, je regarde ce que c'est la bénédiction, je me l'approprie. Et puis je repasse à la nouvelle, et puis je découvre un nouvel aspect. Romains chapitre 5, verset 1, « Ainsi donc, déclarés justes, nous sommes déclarés justes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire nickel. Ça veut dire rien à reprocher. Ça veut dire tout à fait en mesure de recevoir la bénédiction que Dieu a donnée. Pourquoi? Eh bien parce que sa justice a été accomplie à la croix et que je suis au bénéfice de cela. Je suis déclaré juste sur la base de quoi? Il y a écrit quoi? De nos œuvres? Non. Justifié par quoi? Par la foi. Par la foi. Je suis déclaré juste par la foi. Nous avons la paix. Shalom, prospérité, bien-être, cessation d'hostilité, d'accord? La paix. Avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par la foi, je suis déclaré juste. Et j'ai accès à tout ça. Et ensuite, il est dit, et c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Donc, forcément qu'à un moment donné, la pensée « je ne mérite pas » va venir en moi ou en toi. Oui, mais tu ne mérites pas. Mais exactement. Et c'est là où ça va à l'encontre de l'éducation qu'on a reçue. Et c'est là où il faut accepter de penser différemment. Je ne mérite pas et je vais me laisser grassement bénir. Absolument. Pourquoi? Parce que sinon je méprise ce que Christ a fait à la croix. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je suis juste. Oh, mais comment tu peux dire ça? Pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, t'as vu ce que t'as dit au mec au feu rouge? Non. C'était toi. T'as vu ce que t'as dit au mec au feu rouge? Comment tu peux dire ça? Parce que mon esprit est juste. Parce que mon cœur est juste. Il y a d'autres messages sur la justice et sur la justification, mais... Le sang de Christ me purifie de tout péché. Et ça ne remet pas en cause la bénédiction et ça ne remet pas en cause la promesse de Dieu. Maintenant, il faut plutôt que je m'assure que ma conscience, elle, ne vienne pas se mettre en travers du chemin. Ça oui. Et donc, c'est complètement stupide de pratiquer le mal parce que par définition, ta conscience, et c'est une bonne chose, va venir te travailler. Mais si tu sais que tu es en règle avec Dieu. Et si tu as fait le mal, qu'est-ce que tu fais? Tu te flagelles? Non. Seigneur, je te demande pardon, j'aurais pas dû, et c'est ton sang qui a payé pour ça. Donc j'ai pas besoin de vivre dans la pauvreté. Ah, 7 ans de malheur, allez, crac, voilà. Non. C'est 7 millisecondes de malheur, ça s'arrête là, même pas. Voyez-vous, Dieu ne nous traite plus en fonction de nos actes. Quand je suis en Christ, c'est Christ qui le voit. Moi, mon job, assure-toi de rester en Christ. Je le suis parce que je suis sauvé, assure-toi de marcher en Christ. Donc je suis juste, bien. Vous relirez à la maison par souci d'économie de temps, mais le psaume 23 que l'on connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors c'est beau, on voit des petits agneaux qui courent. voyez-vous ? Mais si c'est l'Éternel mon berger, ça veut dire que c'est lui qui me dirige, donc je n'ai pas à m'angoisser en disant « oui, mais comment je vais faire ?» Il va me trouver une solution parce que c'est lui qui me dirige. Est-ce qu'une brebis s'angoisse en se disant « comment je vais faire ?» Non. Si c'est l'Éternel mon berger, ça veut dire que c'est lui qui m'amène là où il y a à manger. Donc, il y a les petits agneaux, il y a le relevé de banque aussi. Et l'Éternel est mon berger, ça vaut aussi pour mon compte bancaire. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. D'accord ? L'eau paisible, il n'y a pas à faire des efforts pour essayer de la capter ou pour essayer de pouvoir boire sans être noyé ou pour se prendre une vague. Ou... L'eau paisible, je viens, je bois. J'ai juste à savoir où elle se trouve. Est-ce que c'est dans telle entreprise ? Est-ce que c'est pour tel patron ? Est-ce que c'est en fréquentant telle personne ? Est-ce que c'est en faisant tel choix ou tel autre dans ma vie ? Est-ce que c'est en arrêtant tel régime alimentaire que les eaux paisibles vont commencer à venir dans ma vie ? Parce que je ne parle pas que d'argent, vous avez bien compris. C'est à tous égards. Il me dirige, c'est lui mon berger. Donc le psaume 23, quand vous lisez ça, ben vous le lisez à la lumière de la bénédiction, à la lumière de l'alliance. D'accord ? Vous relirez également le psaume 34, versets 9 à 11. Je vais vous le citer simplement. Psaume 34, versets 9 à 11. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Mais ce n'est pas une métaphore. « Vois combien l'Éternel est bon. » « Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est écrit. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Vous voyez avec l'auteur du livre si ça ne vous convient pas. C'est pour ça que c'est quand on parle avec les gens, ça n'a rien de partir. Mais moi, je pense que, et toi, tu penses que... Stop. La Bible dit que. C'est Billy Graham qui disait ça. La Bible dit que. Voilà. Je n'ai pas à m'excuser, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit la Bible, voyez avec celui qui l'a écrite. Moi, je ne fais que dire ce qui est écrit. D'accord ? Le psaume 112, on va le lire ensemble en revanche. Le psaume 112. Qu'est-ce qu'on a vu dans Romains 5 ? Nous sommes justes, n'est-ce pas ? Bien. Dans le psaume 112, 112. Ça vous dépeint l'image du juste. Quelle est la vie de quelqu'un qui est juste ? Louez l'Éternel, alors je vous lis dans ma version, vous en avez une autre à l'écran. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. On peut s'arrêter sur chaque passage et le méditer. Sa descendance sera puissante sur la terre. Moi je veux que ma descendance soit puissante sur la terre. Je veux pas qu'il soit soumis, je veux pas qu'il soit malade, je veux pas qu'il dépende des autres en permanence, je veux pas qu'il soit faible, je veux pas que ça soit ceux qui se font casser la tête à la récré, je veux pas que ça soit ceux qui... Je veux que ce soit des gens puissants. Est-ce que puissant veut dire dictateur ? Non. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Ça, c'est intéressant. La génération des hommes droits sera bénie. Je vais vous le paraphraser tel que je le comprends. Si certains se tiennent droits, si certains sont justes, à un instant T, leur génération est bénie. On a vu que pour Abraham, Dieu voulait en faire une source de bénédiction. Et c'est exactement la même chose. Si on lit trop rapidement, on peut penser que dans une génération, quand tout le monde est droit, tout le monde est béni. La génération des hommes droits sera bénie. Mais moi, je le lis. Qu'est-ce qui est écrit ici ? La même chose. S'il y a des hommes justes dans une génération et qui marchent à la lumière de cette justice, alors cette génération sera bénie. Ce qui veut dire, une fois encore, ce n'est pas que de moi dont il s'agit. J'ai l'obligation de comprendre ce que Christ a fait à la croix si je veux changer ce monde, si je veux changer mon monde. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison. Écoutez, lisez-le comme vous voulez, mais... Et sa justice subsiste toujours. Je le proclame, le bien-être est dans ma maison. Il n'y a pas de dispute chez moi. Il dit, ouais, mais il y en a. J'ai assisté. Mais je continue de proclamer qu'il n'y en a pas, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le bien-être. Il y a des gens chez qui il fait bon être. Vous avez remarqué ? D'ailleurs, en général, vous vous incrustez chez ces gens-là. D'ailleurs, ils sont obligés de vous mettre dehors après. Excusez-moi, je travaille demain. Oui, mais on est bien chez vous. Moi, mon associé, il me le dit. Hein. Il me dit, chez moi, mais les gens, je ne sais pas, ils ne partent plus au bout d'un moment. Et je suis obligé de dire... il y a des gens chez qui on a envie d'aller. Il y a des gens chez qui, quand on arrive, c'est paisible. Ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie. Hein. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison. Sa justice subsiste toujours. Lisez le psaume 112. Lisez-le. La lumière, mais même chez vous, lisez-le chaque jour. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Et là, quand on lit ça, on a toujours tendance à dire, bon alors attends, je fais un petit check-up. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien, c'est mal? Non. Je suis juste en Christ. Et c'est là la clé. C'est en Christ que je suis juste. Donc je suis un homme droit. Si je comprends qui je suis à l'intérieur, ça va finir par se manifester à l'extérieur. Si je veux, par mes forces, changer mon extérieur, ça ne fonctionne pas. Mais je suis juste. Donc, c'est de moi dont il s'agit ici. La lumière se lève dans les ténèbres pour moi. Pour celui qui fait preuve de grâce. Ah, je suis juste, donc je dois faire preuve de grâce. Il y en a tous quelques noms qui remontent en haut de la liste, ou quelques crasses qu'on nous a faites à ce moment-là, quand on lit ça, je dois faire preuve de grâce. De compassion et de justice. Il est bon que l'homme, donc c'est toujours moi dont il s'agit, fasse grâce et qu'il prête. Ah, est-ce que je prête mes jouets? Il faut se poser la question. Parce que je peux pas sélectionner ce qui m'intéresse là-dedans. Si je suis juste et que je marche à la lumière de cette justice, alors je dois appliquer ce qui est écrit. Voilà l'image de quelqu'un qui est juste. Quelqu'un qui est juste, il bénit sa génération. Pourquoi? Ben notamment parce qu'il prête. Parce qu'il fait grâce. Parce qu'il passe sur les fautes des gens. Parce qu'il n'est pas rancunier. Ensuite, il est dit qu'il règle ses affaires conformément au droit. Ça veut dire? Ben, ça veut dire que des fois, il faut se poser la question, est-ce que je suis intègre dans ce que je suis en train de faire? Ensuite, il est dit, car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Comment se fait-il qu'il y a des gens dont on se souvienne peut-être 200 ans après leur mort? Et il y a des gens, on les a oubliés 2 heures après les avoir rencontrés. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Tu te rends compte que tu peux avoir un impact tel dans ta génération que dans 150 ans d'ici, les gens continueront de parler de toi, en bien. Ça élargit un peu le champ des possibles. Je trouve que quand on étudie ces choses, notre vie prend une ampleur différente. On n'est pas un accident. On n'est pas catapulté ici par hasard. Vous comprenez ça? Est-ce que les gens se souviendront de moi une fois que je serai parti? Et si oui, pourquoi? Quel impact j'aurais eu ici? On a quoi? 100 ans à passer sur Terre? 120 ans? 90, 70, c'est vous qui voyez. De quoi les gens se souviendront? Oui, mais les gens de ma famille. Non. La génération. Ensuite, il est dit, il ne redoute pas les mauvaises nouvelles, le juste. Si je marche dans cette justice, je ne redouterai pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il regarde ses adversaires en face, plutôt que de cacher la tête sous le sable. Et dire, mais non, ça n'existe pas. Non. Il y a des adversaires à affronter. On a vu, ils vont s'enfuir devant nous par 7 chemins. Il distribue ses bienfaits. Donc ça a trait à mon hospitalité, ma générosité. Il donne aux pauvres. Là encore, moi ça m'interpelle. Moi je suis quelqu'un qui ne donne pas aux pauvres. Très rarement. Je donne à certaines personnes de mon entourage si j'estime qu'ils ont besoin. Mais de manière générale, je pense que je suis un peu trop dur avec cela. Il faut faire preuve de sagesse et tout ce que tu veux. Il y a les réseaux, blablabla, ils se mutilent eux-mêmes, on entend tout. D'accord, ok, j'ai compris. Mais je suis quand même obligé de m'interroger quand je lis ce verset. L'homme juste, il donne aux pauvres. Et ensuite, sa justice subsiste à toujours. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? Sa tête s'élève avec gloire. Bon, ça peut paraître un peu présomptueux, mais étymologiquement, ce qui est intéressant, c'est sa corne s'élève avec gloire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je me souviens que dans l'ancien temps, on buvait dans des cornes. Ou on oignait, il y avait de l'huile également dans des cornes. Donc, quand, et je fais, de temps en temps, je fais le geste. Je dis, quand je lève mon verre, par exemple, je lève avec gloire. Ça veut dire quoi, avec gloire? Ça veut dire, je lève parce que Je lève glorieusement parce que je sais que c'est Dieu qui me le donne avec gloire. Ce n'est pas de ma gloire dont il s'agit ici. C'est de la gloire de celui qui fait ça pour moi. Vous comprenez que le but n'est pas forcément qu'on se souvienne de Marc Guillolier dans 200 ans d'ici. Ce dont je veux qu'on se souvienne, c'est de moi comme d'un poteau indicateur qui pointe vers le Seigneur. Vous comprenez l'histoire ? C'est-à-dire que ce n'est pas de l'autoglorification, ce n'est pas de ça dont il s'agit. À quoi sert ta vie ? Quel sens est-ce que tu lui donnes ? Qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu es tellement embourbé dans ton problème actuellement que tu ne vois plus que ça ? Relisez ces versets, prenez le temps de les méditer. Regardez l'ampleur de la rédemption, parce que c'est de ça dont il s'agit. L'ampleur de la rédemption. Cette rédemption, elle est totale. Ce que Christ a fait à la croix pour nous, c'est total. C'est-à-dire que c'est un rachat de tout. Mon corps, mes pensées, mon argent, ma famille, mon futur, mon éternité, mon esprit, mon âme, tout. Tous les domaines doivent être impactés. Tous les domaines sont au bénéfice de cette rédemption. Pourquoi est-ce que vous voulez que je bannisse un des domaines de la rédemption ? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ? Dans Luc chapitre 5, je vous le dis simplement pour terminer, vous le relirez, c'est assez intéressant. J'ai vu ça cette semaine. Vous savez, c'est le passage où Jésus est en train de recruter ses disciples et il va voir Simon, qui deviendra Pierre. Et il est en train de pêcher, Simon, et il est en train de nettoyer ses filets avec son frère. Et il est associé avec un autre gars et son frère. Donc il y a deux couples de frères là qui sont associés ensemble. Et Jésus arrive sur le rivage, et il lui dit, je vous la paraphrase, mais il lui dit, écoute, retourne en mer et jette les filets différemment. Et Pierre, dont on connaît un peu le caractère, non mais il n'y a pas de hasard, hein. Quand vous donnez un prénom à quelqu'un, il faut vous attendre à ce que ça ait des conséquences. Hein. J'imagine ce qui a dû lui passer par la tête au moment où ce freluquet venait le voir pour lui dire « Écoute, je ne suis pas pêcheur, mais tu devrais retourner en mer. Je sais, hein, tu as pêché toute la nuit, tu es crevé, tu as fait chou blanc. » Pourquoi tu ne retournes pas jeter le filet ? En plus, il faut s'imaginer un peu. Mais imaginez-vous sur un bateau, je veux dire. Tu es en train de pêcher à gauche, donc il y a un banc de poissons, tu vois. Et il dit non, le filet, c'est à droite qu'il faut le jeter. Parce que le poisson, il suit un sens giratoire, tu vois, sous ton bateau. Ou là, il y a un mur, on ne peut pas, il faut... Ah. Mais Pierre a eu un sursaut de lucidité, d'intelligence, et dit, bon, sur tes conseils, je vais y aller. Je ne sais pas, il a dû voir quelque chose dans le regard de Jésus qui a dû lui dire, écoute... Loupe pas le train en marche là, loupe pas le wagon là, il faut que tu y ailles. Il y est allé, et la Bible nous dit que la récolte a été telle, la pêche a été telle, que les filets étaient en train de craquer, il a fallu qu'il appelle les trois autres à la rescousse pour dire venez m'aider parce que j'y arrive pas. C'est-à-dire que c'est une telle abondance, non, je vais le dire, je vais utiliser un mot à dessein, c'était une telle débauche de poissons. Quelle a été la réaction de Pierre ? On parle de quoi ? Ah, là on parle de bénédiction pour le coup, on parle de prospérité, c'était le gagne-pain de ce monsieur, hein. Là, on n'est pas dans des hautes sphères spirituelles, on n'est pas dans le salut de son âme, on est dans le fruit de ton travail. La bénédiction a été telle que Pierre, il nous a dit, il a eu peur. Il a eu peur. Et quelle a été la deuxième réaction ? Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pas pécheur de profession, hein. Je commets le péché. Il est assez intéressant de voir que la révélation de cet homme, la repentance de cet homme, a été provoquée par la bénédiction. Donc on peut essayer de me faire croire comme on veut qu'en étant pauvre, on est plus spirituel, mais ce n'est pas scripturaire. Luc chapitre 5, vous relirez, hein, c'est les premiers versets, peut-être les 15-20 premiers versets du chapitre 5 de Luc. Et vous relirez aussi 1 Roi chapitre 10, versets 4 à 11, où il nous a dit que Dieu a donné une telle sagesse à Salomon et une telle richesse à Salomon, que quand la reine de Saba est venue lui rendre visite, et elle était riche elle aussi, elle a été tellement estomaquée par ce qu'elle a vu, qu'elle a reconnu l'existence du Dieu d'Israël. L'abondance qu'elle a vue, la bénédiction qu'elle a vue, la prospérité qu'elle a vue, a carrément fait tourner cette femme vers le Dieu d'Israël. Donc, une fois encore, pour synthétiser, l'alliance, c'est celle que Jésus-Christ a inaugurée par son sang et scellée par son sang. Nous sommes à ce bénéfice-là, tout nous appartient. L'ampleur de la rédemption est totale. Nous avons besoin de renouveler nos pensées à ce sujet. Nous avons besoin d'accepter la bénédiction de Dieu. Et nous comprenons que ça n'est pas que pour nous, mais que c'est pour notre génération. Et pour les générations futures. Vous imaginez si chaque chrétien qui comprend ces vérités commence à vivre le potentiel de la rédemption? Est-ce que vous imaginez ce que ça peut donner? D'abord, à quelle vitesse l'évangile peut avancer? Les exemples que ça donne. Moi, il y a des endroits de ton entourage où je ne peux pas aller. Tes collègues de travail, je ne les connais pas, c'est toi qui les connais. Oui, mais j'essaie de leur parler. Oui, mais tu sais, si tu es malade, pauvre et seul, ça ne donne pas très envie, là, ton évangile. Ah, mais le Saint-Esprit va leur parler. Ben, on voit notamment dans les Écritures comment il parle, le Saint-Esprit. Il parle aussi par la démonstration dans ta vie de ce que Dieu veut donner aux gens. Amen. Voilà, alors ça fait, je sais, en deux prédications, ça fait beaucoup de versets. Il faut réécouter cela, je pense. Il faut les relire. Prenez le temps de les méditer. Le Saint-Esprit va sans doute vous en donner d'autres, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à étudier le sujet, eh ben, un verset renvoie à tel autre, et puis on lit un verset du Nouveau Testament, et on dit « Attends, mais ça me rappelle un truc de l'Ancien Testament, cette histoire. » Et tu commences à construire comme cela, à bâtir comme cela en toi. Et gloire à Dieu.